En mai 2004, la revue de langue anglaise Le Nouveau Scientifique publiait une lettre ouverte signée par 33 hommes de science, chacun reconnu et respecté dans son domaine. Cet article démolit la théorie du Big Bang, pourtant le bréviaire de l'astronomie moderne. Leurs objections ne sont pas faciles à comprendre pour un néophyte. J'en cite une que je crois avoir assimilée. Le Big Bang s'appuie sur un nombre toujours croissant d'hypothèses invérifiables. Sans elles, nous aurons une contradiction flagrante entre les observations astronomiques et la théorie du Big Bang. Aucun autre domaine de la physique n'adopte constamment de nouvelles hypothèses afin de réconcilier l'observation et la théorie. Les évolutionnistes se démènent comme des diables pour essayer d'effacer toute trace du Dieu créateur en le remplaçant par une suite interminable de phénomènes naturels empilés les uns sur les autres. Cet effort les fait transpirer à grosses gouttes et il est vain parce qu'ils finissent toujours par s'enfermer dans des incohérences et le Dieu créateur a laissé des traces partout. Dans le psaume 19, par un beau lever du soleil, David lève les yeux vers les cieux pour constater qu'il porte la signature du maître de l'univers, d'un bout à l'autre du firmament. Émerveillé, dans un hymne qui est en même temps un psaume d'instruction et qui est d'une étonnante brièveté pour un aussi vaste sujet, le psalmiste célèbre la gloire de l'Éternel. Le thème de ce psaume est double. La révélation de Dieu dans sa création et dans ses commandements. Et il est vrai que, traditionnellement, les commentateurs l'ont divisé en deux parties bien distinctes. La première souligne la manifestation de la majesté de Dieu dans les cieux, et la seconde, sa révélation dans la loi de Moïse donnée à Israël. Cette division n'est pas étonnante parce que dans l'Ancien Testament, la description de Dieu en tant que créateur est souvent liée à son rôle de législateur. Pour bien vivre, l'homme a besoin à la fois de la lumière physique du soleil et de la lumière morale des commandements de Dieu. En regardant le psaume 19 d'un peu plus près, on peut aussi y distinguer la grâce de Dieu, source du salut des hommes. Sans sa miséricorde, il n'y aurait aucune espérance dans le genre humain. La première partie du psaume utilise le nom divin Elohim, généralement traduit par Dieu dans les Bibles françaises, qui signifie « le puissant ». Et effectivement, Dieu a révélé sa toute-puissance dans sa création. Au début du livre de la Genèse, nous lisons « Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. » Genèse chapitre 1er, verset 1er. Tel est son nom en tant que créateur. La seconde partie du psaume 19 commence avec « La loi de Yahvé est parfaite. Elle nous redonne la vie. » Psaume 19, verset 8. Yahvé, généralement traduit par l'Éternel dans les Bibles françaises, est le nom personnel de Dieu. Son nom d'alliance est celui avec lequel il s'est révélé à Israël. Yahvé est mentionné 7 fois dans ce psaume qui se termine par une requête dans laquelle David appelle Dieu Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. Psaume 19, verset 15. Le Pentateuque, qui se compose des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, fut écrit par Moïse. Il utilise lui aussi les deux noms Elohim et Yahvé, ce qui a donné à certains théologiens l'idée saugrenue que le Pentateuque a été composé par plusieurs auteurs. Mais Moïse, comme David, ont volontairement choisi des noms différents parce que chacun correspond à une fonction de Dieu spécifique. Je commence à lire le psaume 19. Au chef des chœurs, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Psaume 19, versets 1 et 2. En observant la venue d'une nouvelle journée qui s'annonce magnifique, David est ému par la splendeur de la majesté divine révélée dans la création. Dans les religions païennes, Les corps célestes font l'objet d'une adoration et on leur prête le pouvoir de gouverner le destin des hommes. Pour David, par contre, ils sont l'œuvre du Dieu créateur, un reflet de sa majesté. Les cieux, dans leur immensité, racontent la gloire de Dieu, sa sagesse et sa puissance créatrice. Depuis toujours, l'univers est la trace du passage de l'Éternel, le témoignage de sa présence et la preuve incontournable de son existence. Dans les credos de l'Église primitive, la création du ciel et de la terre est considérée comme l'œuvre de Dieu le Père. Mais quand on examine aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, on se rend compte que cette perspective, sans être fausse, n'est pas tout à fait exacte. Le nom pour Dieu, Elohim, qui est associé à l'œuvre créatrice, est un mot qui finit par « im », la terminaison plurielle de l'hébreu, ce qui n'est certainement pas un hasard, même si elle peut être considérée comme la forme poétique d'un pluriel de majesté. Cette terminaison fait premièrement référence aux personnes de la Trinité qui ont toutes trois participé à l'œuvre de la création. Dès le début de la Genèse, le Saint-Esprit est mentionné. Je cite le passage. « Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu plâmait au-dessus des eaux. » Genèse chapitre 1, verset 2. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit que le Père a créé le monde par l'intermédiaire du Fils. Je lis le texte. Dieu nous a parlé par son Fils qui a fait héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Hébreux chapitre 1, verset 2. Et les apôtres Jean, dans son évangile, et Paul, aux Colossiens, écrit respectivement. Au commencement, était celui qui a la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Jean chapitre 1, les versets 1 à 3, Colossiens chapitre 1, les versets 15 et 16. Remarquez qu'il est bien dit. Oui, par le Fils et pour lui, tout a été créé. Jésus-Christ est l'agent de la création. On est bien loin du petit Jésus dans sa crèche. Tout comme les trois personnes de la Trinité ont collaboré à la création, elles ont aussi participé à l'œuvre du salut de l'homme. Le Père l'a planifié d'après le conseil de sa volonté. Le Fils l'a effectué par son sacrifice. Et le Saint-Esprit l'a garanti par sa présence. Dans son épître aux Éphésiens, Paul écrit « En Christ, nous avons reçu le pardon de nos fautes, et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, à Dieu, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses. C'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » Éphésiens chapitre 1, verset 7, les versets 11 et 13. Je continue le psaume 19. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Psaume 19, les versets 3 à 5. Littéralement, David écrit « Le jour au jour en transmet le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. » Le mot traduit par « transmet » décrit une source qui jaillit sans interruption. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « N'est-il pas écrit « Leur voix a retenti par toute la terre ». Leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. » Romains chapitre 10, verset 18. Paul veut indiquer que la proclamation de l'Évangile s'est étendue au monde entier comme le témoignage de la voûte céleste. Effectivement, les cieux communiquent aux hommes de toutes les nations un message visuel qu'ils peuvent comprendre et qui est un puissant témoignage de la gloire divine. Toujours aux Romains, Paul écrit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Romains chapitre 1er, verset 20. Je continue le psaume 19. « Dieu a dressé dans le ciel, pour le soleil, une tente. Comme un jeune homme qui sort joyeux de sa maison, le jour de son mariage, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil, tout à l'Orient. Il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. » Psaume chapitre 19, les versets 5 à 7. Le soleil, objet d'adoration par de nombreux peuples, est présenté ici comme une création de Elohim. Le soleil est un témoin rayonnant de sa gloire, mais aussi de sa bonté, comme l'a fait remarquer Jésus qui a dit aux foules, « Votre Père céleste fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. » Matthieu chapitre 5, les versets 44 et 45. La façon dont David décrit le soleil fait penser à un autre époux, Jésus-Christ. En effet, un jour il reviendra sur la terre et fera le même circuit que le soleil pour chercher chaque membre de l'Église qui est son épouse. Alors auront lieu les noces de l'agneau, auxquelles sont conviés tous ceux qui répondent à son invitation. Le rayonnement du soleil conduit à une méditation sur la lumière intérieure apportée par les commandements de Dieu. Je continue le texte. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens simples, elle donne la sagesse. Psaume 19, verset 8. Tout comme le soleil est le point d'orgue de la manifestation de l'Éternel dans la nature, sous l'ancienne alliance, la loi est la révélation spécifique de Dieu à l'homme. Les ordonnances divines éclairent l'intelligence de ceux qui sont simples de cœur et ravit l'âme des fidèles. La loi est parfaite et tranche comme un fil de rasoir toute imperfection. Comme elle s'adresse à des êtres dépravés, la loi révèle notre péché et prononce une sentence de mort sur chaque être humain. Aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort ? Non, c'est le péché !» Romains chapitre 7, les versets 12 et 13. La loi est parfaite, et en second lieu, elle est digne de confiance et immuable. Dieu ne s'adapte pas au changement des mentalités. Il ne modifie pas ses règles morales et n'a que faire des décisions judiciaires qui légalisent des pratiques abominables. Il jugera tous les péchés. Je continue. Les exigences de l'Éternel sont justes. Elles font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils donnent du discernement. Psaume 19, verset 9. Certains commandements de la loi sont difficiles à accepter, j'en conviens. Il n'empêche qu'ils sont tous justes, car conformes au caractère de Dieu. C'est lui qui décide ce qui est juste, droit, bien et bon. Il a créé l'univers, établi les lois physiques et donné les règles morales. Que ça me plaise ou pas, j'y suis soumis. Je peux sauter d'un toit si je veux, mais j'en subirai les conséquences. Quatrièmement, les commandements de Dieu sont vrais, c'est-à-dire cohérents avec la réalité de ceux qui leur obéissent, connaissent la différence entre le bien et le mal. Je continue le psaume. La crainte, la confiance respectueuse de l'Éternel est pure. Elle subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Psaume 19, verset 10. Les jugements de Dieu sur la vie et les coutumes sociales sont justes, et celui qui les respecte se libère des pratiques dégradantes. Un des proverbes de Salomon est « La clé de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Proverbe chapitre 1, verset 7. Et lorsque Dieu a donné la loi à Israël, il a dit à Moïse « Assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. » Deutéronome chapitre 4, verset 10. La crainte du gendarme fait les bons usagers de la route. Celui qui craint son père lui obéit. Sa conduite sera droite pour son plus grand bien. Sixièmement, la loi de Dieu enseigne la vérité et la justice. Dans notre culture, il existe une telle cacophonie qu'il est impossible aux néophytes de savoir qui dit vrai et qui ment, ce qui est juste ou dépravé. Par contre, la parole de Dieu est absolue, sûre et digne de foi. C'est le seul étalon de mesure qui permet de tout évaluer avec justesse. Je continue. Les décrets de l'Éternel sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur en tire instruction, et il trouve un grand profit. Psaume chapitre 19, versets 11 et 12. Dans l'ancien Proche-Orient, l'or est le bien le plus précieux, et le miel, l'aliment le plus doux. Pour ceux qui désirent plaire à Dieu, lui obéir est pas un fardeau. L'observation des commandements est une récompense en elle-même, car elle est comme un guide au travers des écueils de la vie qui nous permet d'éviter les dangers liés à la pratique du mal. Je continue. Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Psaume 19, versets 13 et 14. La loi fait une distinction entre, d'une part, les péchés volontaires, dits à main levée, où, par orgueil, la volonté de l'homme se dresse contre celle de Dieu, et d'autre part, les péchés non prémédités commis par négligence ou par faiblesse. Les péchés capitaux sont graves, pourtant, même David a commis un adultère et un meurtre. L'orgueil est la racine de toutes les fautes, car il incite l'homme à vivre par lui-même, sans Dieu et sans l'éclairage de sa parole. L'orgueil conduit à rejeter Jésus-Christ, un péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Je finis le psaume 19. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. Psaume 19, verset 15. Le besoin de secours et de pardon sont concrétisés par ces deux noms donnés à l'Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Nous arrivons au psaume 20 qui fait partie des psaumes royaux. Le roi est en guerre à la tête de l'armée. Mais avant la bataille, il prie afin que l'Éternel lui accorde la victoire. Ce cantique est probablement chanté sous la direction du chœur des Lévites. On distingue deux parties. D'abord, le peuple prie pour son roi. Puis, comme un seul homme, il exprime sa confiance en Dieu et l'assurance d'être exaucé. Je commence à lire. « Ô chef des cœurs, cantique de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que ta forteresse soit le Dieu de Jacob. » Psaume 20, versets 1 et 2. Dans les tranchées, il n'y a pas d'athée. Au jour du malheur, presque tout le monde prie. L'Éternel n'a pas honte de se présenter comme le Dieu de Jacob, bien que ce dernier ait été le roi des entreloupettes. Il fut certes puni, mais aussi délivré de toutes ses détresses. Je continue. Que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il t'apporte son aide. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Pause. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Psaume 20, les versets 3 à 5. En cas de calamité nationale, et avant toute bataille, les prêtres offrent des sacrifices à l'Éternel. Le peuple demande à Dieu de les agréer pour que leurs fautes soient couvertes, afin qu'il leur donne la victoire contre leurs ennemis. Suite à la mention des holocaustes, on a une pause musicale afin de permettre au peuple d'adorer l'Éternel. Je continue. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant notre bannière pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel réponde à tous tes vœux. Psaume 20, verset 6. Les adorateurs ont confiance en Dieu qui va intervenir en faveur du roi. Par la foi, ils anticipent la joie de la victoire qui est célébrée avec beaucoup d'exubérance. 1 Samuel, verset 18, les versets 6 et 7. Je continue le texte. Oui, je sais maintenant que Dieu soutient son roi qui a reçu l'onction. Il exauce les vœux de sa demeure sainte. Il l'a délivré par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre. Aux autres, les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et tenons fermement. Psaume 20, les versets 7 à 9. Le peuple exprime l'assurance de la victoire parce qu'il place sa confiance en Dieu plutôt que dans la puissance militaire. Dans l'Ancien Testament, cette idée de puissance de l'invocation du nom de l'Éternel est vivement illustré par David qui dit à Goliath, 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » 1 Samuel 17, verset 45. Et dans le prophète Osée, on lit, « Je sauverai la communauté de Juda moi-même, et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. » Osée chapitre 1, verset 7. Je finis le psaume 20. « Éternel, sauve notre roi, qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à notre aide. » Psaume chapitre 20, verset 10. Comme Israël était une théocratie, le roi est le régent de Dieu. C'est lui qui secourt le peuple au nom de l'Éternel, le vrai souverain. Ce psaume commence par « Que l'Éternel t'exauce » et finit avec « Que l'Éternel nous réponde ». Que les choses aillent bien ou mal, Dieu veut que nous invoquions continuellement son nom, car il désire participer à notre vie.